Bonjour. Eh bien, je souhaite à toutes et à tous un bon retour de vacances et une très bonne reprise. Et pour alimenter les fêtes qui approchent, je vous ai choisi un roman de Zoé Achalev, comme on dit en français. Donc Zoé Achalev, qui vient de publier chez Gallimard Stupeur, traduit par Laurence Sendrovitch. J'ai oublié de dire dans la superbe traduction de Laurence Sendrovitch. Je rappelle que Zoé Achalev est l'autrice de Mari et femme, Terra, Ce qui reste de nos vies, prix Femina étranger 2014. Zoé Achalev, fine analyste de la complexité des âmes et de son pays, peut-être. Alors le sujet, sans rien vous dévoiler bien évidemment, en allant assister à une pièce de théâtre, Rachel, 90 ans, est abordée par Atara, petite cinquantaine, qui lui parle de son père, Manon, auquel Rachel a autrefois été mariée brièvement. Zoé Achalev poursuit donc son travail autour de parcours féminins, douloureux, complexes, mais cette fois-ci, elle ne se contente pas d'une seule protagoniste, puisque dans des chapitres en alternance, ce sont deux femmes, Rachel et Atara, dont nous suivons à la fois les problèmes au présent et les répercussions de leur passé. Celui-ci va ressurgir pour chacune à partir de leur rencontre, moins fortuite qu'elle n'en a l'air. Récemment orpheline, son père est mort un an auparavant, donc le fameux Mano, Atara se met en quête de Rachel après que son père a prononcé son nom sur son lit de mort. En effet, qui était cette femme avec laquelle le délire de la maladie l'a fait la confondre, lui offrant à elle, Atara, pour la seule fois de sa vie de la part de son père, cet homme froid, un regard aimant. Pour la vieille dame, qui semble n'avoir plus rien à attendre de la vie, qui vit seule dans sa maison de Mahalé Adoumim, c'est-à-dire dans les territoires, comment dire, occupés, récupérés, libérés à Jérusalem en 1967, elle reçoit de rares visites d'un de ses fils, qui est Chozer Bitshuva, c'est-à-dire qu'il a fait un retour en religion, et l'autre ne vient pas chez elle car lui elle reproche de s'être installée dans une colonie. Ce surgissement de Atara va raviver des souvenirs d'une jeunesse combattante contre l'occupation britannique où l'amour est venu frapper à sa porte quand seul l'engagement semblait devoir compter. Quand je parle d'engagement contre l'occupation britannique, il faut préciser que Rachel faisait partie avec Mano de ce qu'on appelle en hébreu le Lehi, Lochamei Cherut Israël, c'est-à-dire les combattants pour la liberté d'Israël, qui avec le groupe Etzel, Irgun Tzvaï Leumi, organisation militaire nationale, étaient deux mouvements de combat par les armes, contre les Anglais. Et quand je dis par les armes, il s'agissait d'actes terroristes, puisque ces groupes se sont rendus célèbres, dirais-je, par plusieurs actes, dont l'attentat à l'hôtel King David en 1947. Ce groupe est souvent, à tort, là je fais une petite parenthèse, assimilé avec le mouvement révisionniste de Jabotinsky, un mouvement qui s'opposait bien sûr à la politique plus diplomatique de Ben-Gourion et des sionistes de gauche. Il n'empêche que tous n'étaient pas des jeunes gens de droite, tant s'en faut. Il y avait des communistes parmi eux, et surtout leur but était de bouter l'anglais hors de la terre d'Israël pour pouvoir vivre pacifiquement avec les Arabes. Ce n'était pas le cas de tous, mais en tout cas, il y en avait parmi eux, comme par exemple l'écrivain Amos Kainan, qui ensuite a complètement viré de bord, puisqu'il est devenu, il a adhéré à l'extrême gauche. Donc voilà ce mouvement auquel appartenait Rachel, et donc Mano, le père de Atara. Peu à peu, Tzuria Shalev déploie des parallèles et des similitudes des deux destins de ces femmes. L'échec d'un premier mariage, un tiraillement entre aspiration personnelle et un rôle maternel, l'impression d'un fossé avec la génération suivante et la culpabilité de n'avoir pas forcément toujours fait les bons choix. En fait, c'est avant tout la condition féminine que le texte interroge à travers ce double portrait. Rachel, comme Atara, semble souffrir dans sa maternité de voir ses enfants s'éloigner d'elle à l'âge adulte, de ne pas adopter les mêmes valeurs ou les mêmes priorités, les mêmes orientations, religieuses ou a-religieuses, politiques, qui ont guidé sa propre vie. Et puis être une femme, c'est aussi se sentir obligée de faire la cuisine pour tout le monde, y compris les enfants qui sont grands, pourraient se débrouiller tout seuls, y compris les invités dont on n'a pas souhaité la présence, mais devant lesquels il faut faire bonne figure. C'est croire aussi qu'il faut obéir et plaire à la figure paternelle et puis à celle du mari. C'est porter la culpabilité profonde de n'avoir pas su construire initialement une famille nucléaire, d'être passé par un divorce, pas forcément désiré. Et donc, au-delà de toutes ces trajectoires individuelles entremêlées, la narration laisse entrevoir les fractures d'une société, celle d'Israël en l'occurrence, tiraillée entre passé et présent, religion et laïcité, fidélité aux traditions, ou bien adhésion à la modernité, ce qui s'incarne en particulier dans le travail d'architecte d'Atara, qui a choisi de se consacrer à la restauration de bâtiments anciens, alors que son mari l'exhorte à construire des choses nouvelles. L'architecture, l'archéologie, est un motif, un topos cher à Tzuria Shalev, qui y voit évidemment comme le symbole des strates successives, les unes qui s'emboîtent les unes sur les autres, mais au bout du compte, il faut aller rechercher la strate la plus ancienne pour essayer, tenter de dénouer les problèmes. Alors évidemment, on ne peut s'empêcher de penser que derrière ces stigmates individuels portés par ces deux femmes, il y a le destin d'un pays, qu'on peut dire sans exagération, gangrené par ces guerres intestines. Et d'ailleurs, ce n'est pas sans doute un hasard que le seul personnage féminin qui semble réellement s'épanouir soit Abigail, la fille d'Atara, celle du premier lit, qui est partie étudier, vivre aux États-Unis, où elle rencontre d'ailleurs son compagnon. Donc vous aurez compris que Rachel et Atara sont les personnages qui portent l'intrigue de ce roman, Stupeur, en hébreu Plia, que personnellement je traduirais, mais les éditeurs ont souvent des exigences contre lesquelles on ne peut aller. Plia, du mot Pelé, qui est merveille, émerveillement, hein, plutôt que stupeur vraiment. Donc, Rachel, tout d'abord, Rachel, cette vieille dame, cette ancienne combattante clandestine à l'esprit clair et vif, qui est toujours adonnée à son idéalisme pionnier qui l'a menée à être parmi les fondateurs tout de même de ce foyer juif dans les territoires, justement, dans les territoires conquis, devenus territoires occupés pour d'autres. Et donc, Atara, cette autre protagoniste, cette autre héroïne, qui, elle, a quitté Jérusalem, où elle est née, pour Haïfa. Haïfa, la ville laïque, la ville plus libérale, où elle mène une vie de famille bourgeoise, même une vie bourgeoise très confortable, avec Alex, donc son époux actuel, qui lui aussi a quitté sa première famille pour en fonder une nouvelle. Mais il semble que le point principal de ce roman soit en fait le contexte qui relie la vie de ces deux femmes et qu'on pourrait trouver dans l'incarnation de la première scène, de la scène d'ouverture, justement à propos d'ouverture, qui va se répéter à plusieurs reprises dans le roman, à savoir un frappement obstiné sur une porte verrouillée qui refuse de s'ouvrir. Justement, à propos d'ouverture, hein, on a ici comme un roman qui se refuserait à vous, hein, qui refuserait de s'ouvrir, de se révéler, hein, jusqu'à peut-être une révélation finale, mais ce n'est pas certain. La conversation tant souhaitée, celle que Atara souhaite avoir avec Rachel, ne se forme pas, n'aboutit pas, en tout cas pas dans le premier chapitre, et pas dans le deuxième, et pas dans le troisième. Je n'ai rien révélé d'extraordinaire. Cela vous poussera très certainement à poursuivre votre lecture. C'est ainsi que s'ouvre le roman. Debout, derrière la porte close, elle se tient immobile. Et immobile, en hébreu, ce mot, un de ses très nombreux synonymes, domemet, signifie également en silence. C'est-à-dire qu'on a non seulement l'immobilité, mais on a le silence. C'est-à-dire que rien ne se passe. Elles auraient pu, après tout, converser à travers une porte fermée, mais même pas. Donc, ce topos, ce thème, ce motif, hein, du lien qui ne se crée pas et qui appelle en fait une lecture évidemment plus approfondie de ce roman émerveillement, stupeur en français, dès les pages d'ouverture. La seule année pendant laquelle Rachel et Mano Menachem, donc le futur père d'Atara, la seule année pendant laquelle ils vont être mariés, c'est entre 47 et 48, 48 un tout petit peu avant l'indépendance, je rappelle le 14 mai 48, et bien cette année-là s'achève, cette année de noces, de mariage, sans laisser aucun souvenir derrière elle. Alors déjà sans laisser d'enfants, évidemment, mais il se trouve que chacun des deux membres du couple ira fonder une autre famille de son côté sans révéler à leur nouveau conjoint, nouvelle conjointe, ce qui s'est passé plus tôt et surtout, oui, c'est pas tout à fait juste, le nouveau mari de Rachel et la femme de Mano savent qu'ils ont été mariés, mais Mano et Rachel enjoignent à leurs nouveaux conjoints et conjointes de ne rien révéler à leurs enfants. Évidemment, lorsque Mano, qui est à l'agonie, témoigne brusquement d'un accès d'amour filial qu'il n'a jamais témoigné à sa fille Atara, envers laquelle il s'est toujours comporté de façon sévère, pour ne pas dire brutale, voire violente, tout à coup, il est plein d'amour pour elle. Sauf que, il ne s'agit pas d'elle, mais il la confond avec Rachel. Et évidemment, nous sommes ici en présence à nouveau de le seuil de cette porte Hein. Cette porte devant laquelle Atara se trouve au moment de l'agonie de son père, puisque c'est le seuil d'une révélation dont elle n'avait absolument pas le moindre pressentiment. Et elle va tenter de retrouver, par tous les moyens, elle va même engager un détective privé, afin de recréer un lien avec cette Rachel, appelée par son père sur son lit de mort. Atara dit encore, se dit à elle-même, c'est tellement bizarre. Un jour, on frappe sans relâche sur une porte fermée, hein, ce qui pourrait être effectivement la porte symbolique de son père qui n'a jamais répondu à l'attente de son amour. Et puis, on attend avec presque un enthousiasme, avec un espoir fou. Et c'est justement là que la femme qui est en face de toi et dont tu attends avec tant d'impatience de faire la connaissance, cette Rachel, eh bien, elle ne répond pas, ou bien elle est prise d'une sorte de refus de vieille dame qui ne sait plus trop où elle en est. Mais cela, Atara ne peut pas savoir que Rachel sait parfaitement où elle en est, au contraire. Alors l'une des clés que je voudrais évoquer ici, une des clés du roman par lequel on pourrait le déchiffrer, l'expliquer, se trouve peut-être dans la figure de Amichai donc le fils cadet que Rachel a eu avec son second mari décédé depuis de nombreuses années. Et cet Amichai, je rappelle au passage tout de même la signification des prénoms, qui n'est pas tout à fait anodine. Amichai, c'est « mon peuple est vivant », ce qui n'est pas évidemment tout à fait par hasard que Rachel a donné ce prénom à l'un de ses fils. Et si je m'arrête déjà au prénom, alors je ne révélerai surtout pas l'origine du prénom Atara. Le lecteur aura évidemment la curiosité de poursuivre dans sa lecture pour savoir pourquoi Manon a donné ce prénom à sa fille. Mais si l'on s'arrête sur celui beaucoup plus classique de Rachel, Rachel c'est évidemment Rachel Imeinu en hébreu, c'est-à-dire Rachel notre mère, cette matriarche, la quatrième dans l'ordre de Sarah, Rebecca, Léa et Rachel. Rachel, la matriarche qui a failli ne pas avoir d'enfant, puisqu'elle a tout de même été stérile pendant de longues années, jusqu'à ce que elle donne naissance à Joseph, Yosef et Benjamin, Benjamin. Rachel qui va, pour ensuite, à la suite de cette naissance, malheureusement mourir prématurément. Eh bien, cette Rachel que l'on retrouve dans le livre du prophète Jérémie, dans l'incarnation de la mère d'Israël, c'est-à-dire la mère de tout l'ensemble du peuple juif, d'où sa dénomination de Rachel, notre mère, celle qui pleure, dit le verset de Jérémie, celle qui pleure ses enfants en exil, hein, Rachel Mevaka Albanea. C'est donc une figure hautement symbolique qu'incarne notre Rachel à nous, notre Rachel du roman, hein, cette grande mère, grande figure maternelle de tout ce peuple d'Israël, dont une partie, encore une petite digression, dont une partie l'a reniée, elle et les siens, hein, les combattants du Lehi et de Hetzel, donc ces deux mouvements de combat contre l'anglais en Palestine, ont été mis de côté, mis à l'écart dès l'indépendance, puisque les chefs de l'establishment du jeune État d'Israël, donc un establishment de gauche, a décidé que ces combattants qui avaient œuvré dans la terreur et qui étaient pour beaucoup affiliés donc à Jabotinsky, eh bien, ces combattants n'avaient pas droit à la reconnaissance. Ce dont, évidemment, notre Rachel, héroïne du roman Stupeur, que nous sommes en train d'essayer d'analyser brièvement, ce dont elle garde une profonde rancune, une profonde tristesse par rapport à l'État qu'elle a évidemment aidé à se reconstruire. Et donc, je reviens à Mikhaï, hein, ce fils qui est Khozer Bitshuva, donc qui a opéré un retour en religieux, et qui, lors de la première rencontre, on le rencontre très rapidement, puisqu'il, lui, le fils religieux, vient voir sa mère, contrairement à l'autre, eh bien, il lui raconte une histoire de Rabbi Nachman de Bratslav, ce grand maître du chassidisme. Et voilà l'histoire qui peut peut-être servir de fil rouge ou de fil d'Ariane, comme vous voudrez, à tout le roman. L'histoire est la suivante, une source qui jaillit d'un rocher, lequel se trouve au sommet d'une montagne. Cette source a pour souhait ardent de rencontrer, de trouver où est le cœur du monde, Lev HaOlam. Et malgré ce vœu ardent, le cœur et la source ne peuvent se rencontrer. Il y a des obstacles absolument insurmontables. Et malgré cela, malgré ces obstacles, malgré cette tension cachée, secrète, on a un lien indéfectible entre eux, malgré le fait qu'ils ne peuvent jamais se rencontrer. C'est un petit peu ce qui se passe entre Atara et Rachel, qui oscille entre le Mont Carmel à Haïfa, où habite Atara, et Maalé Adumim, donc cette colonie créée après 67, au-delà de cette fameuse ligne verte. Elle tâtonne, ces deux personnages, pendant tout le roman, tâtonnent constamment l'une vers l'autre, attirées par un aimant, évidemment, et qui ne parviennent pas, en tout cas pas dans l'espace romanesque qui nous est donné, à véritablement communiquer, tout en sachant, tout à fait consciemment, que le jour viendra où elles seront infiniment proche, où justement la source rencontrera le cœur du monde. Alors pour conclure, je vais vous donner un petit aperçu de ce très beau roman, tout simplement avec la page d'ouverture, en me remettant l'accent sur ce motif du seuil, qui, avec celui de la rencontre entre la source et le cœur du monde, sont, je pense, vraiment les lignes directrices de ce très beau roman de Tsuya Shalev, Stupeur, édité chez Gallimard. Chapitre 1er, c'est moi, Rachel. Debout, derrière la porte close, elle se tient immobile. À quoi bon appuyer sur la sonnette ou frapper, puisque de toute façon, la maîtresse de maison a remarqué sa présence. Elle discerne l'esquisse d'un mouvement derrière la fenêtre ouverte de la cuisine, aussi distrait qu'un sillement. Sur le fourneau, bout une énorme marmite qui cache assurément la toute petite femme et sa cuillère en bois. À n'en pas douter, celle-ci prépare une soupe de lentilles. De quoi nourrir son fils adoré? Est-il là? Les vapeurs qui s'échappent vers l'extérieur lui enflamment le visage, imprègnent ses cheveux. « Sonia, ouvrez-moi » lance-t-elle en direction de la marmite. Puis elle ajoute, bien que ce soit inutile, « C'est moi, Rachel. » Il lui semble saisir une hésitation chez sa belle-mère, deux ombres qui s'entrechoquent. Cette dernière oserait donc l'ignorer alors qu'elle a mis sa vie en péril pour arriver jusqu'ici. À cette époque, atteindre Jérusalem était une entreprise terrifiante. Embusqués tout le long de la route, des bandes d'Arabes tiraient sur les convois qui se dirigeaient vers la ville assiégée. Malgré les exhortations de ses compagnons de Tel Aviv qui avaient tenté de la dissuader d'entreprendre ce voyage, elle avait tenu bon. « C'est du suicide », n'avait-il cessé de lui répéter. Mais avait-elle le choix ? Elle lui avait envoyé lettre sur lettre, sans obtenir la moindre réponse. « Sonia, je dois avoir Mano », insiste-t-elle. « Je suis venue spécialement de Tel Aviv. Je m'inquiète pour lui, je ne comprends pas ce qui se passe. Il est là, chez vous ?» Par une telle chaleur, l'air monte en volute qui enveloppe son corps, comme si elle était un génie sorti d'une bouteille où qu'elle allait se liquéfier et laisser pour unique trace une petite flaque que sa belle-mère, à grands coups de balai, repousserait allègrement en bas des marches.